Cinquième partie. Dans le défilé. La terre devint marécageuse. Il fallait se glisser parmi les boues ou se traîner sur la rive. Pendant 2 jours, les fugitifs n'avancèrent pas plus vite que les bêtes qui rampent. Puis le fleuve se resserra entre des rives escarpées. Un énorme mur de schiste barra la route. Il était long de 3000 coudées et haut de 600. À l'occident, il baignait dans le fleuve, à l'orient dans un immense et impénétrable marécage. Une seule issue se trouva, un défilé étroit qui se creusait à la hauteur de 300 coudées, et auxquels on accédait par des pentes semées de blocs fauves. Aoun, qui marchait le dernier, parvint à l'entrée de la passe et s'arrêta pour considérer le site. Pendant ce temps, Ouche avançait. Elle revint bientôt sur ses pas et annonça « Le marécage s'étend de l'autre côté des rocs. » « Il faudra repasser le fleuve, » dit le Oua, qui avait suivi la femme chef. « Il y a des arbres, nous pourrons construire un radeau. » Aoun poussa une exclamation et tendit la main. Là-bas, entre 2 mares, des hommes venaient d'apparaître. On en compta 7 dont l'aspect était trop caractéristique pour laisser un doute. « Les hommes d'Aul !» s'écria Ouchre. Leur nombre s'accroissait sans cesse. La poitrine d'Aoun s'enfla. Il aspira le souffle fiévreux des eaux palustres. Il épia l'abîme. « Bien avant que le radeau soit construit, » murmura-t-il, « les hommes d'Aul seront auprès de nous. » De lourdes pierres gisaient autour de lui. Il en roula plusieurs à l'entrée de la passe, tandis qu'Ouchre, le Oua et les femmes en transportaient d'autres. Entre les 2 mares, on voyait ramper les Chelléens. La mort s'avançait avec ses êtres sombres. Aoun dit, « Le fils de Lurus et 3 femmes défendront le défilé. Zour et les autres femmes construiront le radeau. » Le Oua hésitait. Il fixait sur son compagnon des prunelles tremblantes. L'autre, comprenant son angoisse, « Il y a 4 sagaies, 2 harpons. J'ai ma massue, les femmes ont leurs épieux. Si nous ne sommes pas assez forts, je demanderai du secours. Va, le radeau seul peut nous sauver. » Zour céda. Aoun choisit Ouchre pour demeurer avec lui et une autre femme à la poitrine profonde. Quand il se tourna pour choisir la 3e, il vit Jéa qui s'avançait en secouant sa chevelure. Il voulait l'écarter, mais elle le regardait avec une douceur fiévreuse. L'amour fut en lui le choix tendre que seul Nao avait connu parmi les Oulamres, et les temps innombrables s'étendirent. Il oublia le péril et la mort. Les hommes d'eau l'arrivaient. Après s'être frayé passage entre les mares, ils se répandaient sur la rive rocheuse. L'un d'eux, le corps aussi velu que les ours, montrait des bras énormes. Il maniait sans peine un épieu plus lourd que la massue d'Aoun. À mesure qu'il s'approchait du massif, il s'éparpillait pour découvrir les passages. Plusieurs voies se creusaient dans le roc, mais toutes aboutissaient à des murailles verticales. Seul le défilé paraissait praticable. Aoun, Ouchre, Jéa et la 3e femme achevaient de le fortifier. Ils amassaient aussi des blocs pour écraser les assaillants. On pouvait accéder à la passe par 2 chemins, directement dans le lit où l'eau du printemps et de l'automne se frayait passage, obliquement à travers un dédale de roc. La voie directe permettait un assaut en 3 ou 4 rangs. La voie oblique forçait les assiégeants à se précipiter un par un, mais elle permettait une attaque de haut en bas. À 100 coudées des rocs, les Chelléens s'arrêtèrent. Ils épiaient les mouvements d'Aoun et des femmes. Leurs faces larges ricanaient, et les lèvres bleues s'écartaient sur les dents brillantes. Soudain, ils poussèrent un hurlement lugubre qui rappelait ensemble les hurlements des loups et des dôles. Aoun montra son harpon et sa massue. « Les Oulamres prendront les terres de chasse des hommes du feu. » Ouchre joignait sa voix rauque à celle du fils de Lurus. Elle vociférait. Les hommes d'Aul ont massacré nos sœurs et nos frères. Nos alliés détruiront les hommes d'Aul jusqu'au dernier. Puis il y eut un long silence. Un vent humide et chaud s'élevait des marécages. Des aigles et des vautours planaient sur les cimes. On apercevait de monstrueux gavials sur les îles. La voix du fleuve s'élevait dans l'immense solitude, fraîche, vivante et intarissable comme au premier jour du monde. Les Chelléens se divisèrent en deux bandes. Le chef conduisait la première parmi les méandres, les autres s'efforçaient d'atteindre directement le défilé en se dissimulant dans les fissures et derrière les blocs. Les prunelles étincelantes d'Aoun dénombraient les ennemis. Il élevait le propulseur armé d'une sagaie, Ouchre et ses compagnes, au premier signal, lapideraient les survenants. Mais ceux-ci demeuraient invisibles ou apparaissaient entre des obstacles où il était presque impossible de les atteindre. Cependant, un Chelléen se découvrit. Le propulseur tournoya et la sagaie s'enfonça entre les côtes de l'homme. Des rauquements s'élevèrent. Le blessé disparut. Attentif, Aoun tenait prêt un deuxième projectile. Bientôt la marche reprit, surtout sur la voie indirecte où plusieurs guerriers arrivèrent à la hauteur du défilé. On ne les voyait pas. Pour attaquer les assiégés, il leur fallait s'élever encore et escalader une corniche étroite d'où ils pourraient bondir un à un. Dans l'intervalle, la voie directe fut envahie. Une voix puissante gronda et d'un élan furieux, 15 hommes se ruèrent. La sagaie siffla, des blocs rebondirent. Des cris féroces et plaintifs se répercutaient sur les roches. Les Chelléens n'avaient pas arrêté leur course. Malgré une lapidation incessante et le jet d'un harpon, ils parvinrent à 8 coudées de la passe. 3 avaient roulé dans la ravine, 2 autres étaient blessés. Aoun voyait de près la houle des faces, les feux des pupilles, et il entendait souffler les poitrines. Alors, avec un « Ah !», il lança un bloc énorme, tandis que les femmes faisaient rouler les pierres désespérément. Un hurlement lugubre retentit sur les roches. Les assiégeants, pêle-mêle, se rejetaient en arrière, et Aoun allait détacher un deuxième bloc lorsqu'une pierre le toucha au crâne. Il leva la tête. Une face rousse ricanait. Coup sur coup, 4 corps bondirent. Aoun avait reculé. Il tenait à 2 mains sa massue. Ouchre et Djéa dardaient les épieux. De part et d'autre, 3 combattants pouvaient se tenir de front. Il y eut une manière de trêve. La crainte de l'inconnu tenait les hommes d'eau les immobiles. Aoun se demanda s'il fallait appeler à l'aide. En face de lui, le chef ennemi développait sa stature trapue. Son épieu dépassait d'une coudée celui de ses compagnons. Tout son être exhalait la force et l'habitude des victoires. Ce fut lui qui mena l'attaque, et son épieu déchira le flanc d'Ouchre. Mais Aoun, d'un coup rude, abattit l'arme. La massue écrasa l'épaule d'un guerrier qui venait de bondir à son tour. L'homme roula sur le sol, tout de suite remplacé par un autre. De nouveaux assaillants survenaient à l'arrière. Alors, Ouchre poussa le cri de secours que répétèrent Djéa et l'autre femme, tandis que les Chelléens se précipitaient avec des grondements de loups. En 3 coups, le fils de Lurus abattit 3 épieux, dont 2 avaient les pointes brisées. Ouchre blessa un homme d'aule à la poitrine, mais la 3e femme s'affaissait, agonisante. Devant la massue colossale, les agresseurs avaient reculé. Ils se tassaient à l'entrée de la passe. Le chef, ayant relevé son épieu, se tenait à une demi-coudée devant ses hommes. Ceux dont les armes étaient faussées cédaient la place à d'autres. Avec un rire farouche et des grincements de mâchoire, ses yeux agiles percevant chaque geste des antagonistes, le chef chelléen fonça. L'oulambre s'effaça, mais l'épieu lui déchira la hanche. Il trébucha. L'autre poussait un cri de victoire. La massue riposta. Le crâne épais du chef craqua, et rebondissant en arrière avec un cri rauque, l'homme fauve tomba parmi les siens. Pendant un moment, les chelléens tournoyèrent. Leur nombre s'accroissant toujours, ils reprirent la charge. La formidable massue rompait les pointes, écrasait les poitrines. Ouchre et Djéa frappaient sans relâche. Il fallait reculer cependant, devant le nombre, et l'on approchait de l'endroit où le défilé s'élargissant, l'attaque des Chelléens deviendrait efficace. D'un effort immense, brisant de toutes parts les épieux, le fils de Lurus réussit à immobiliser l'ennemi. une clameur furieuse montait. À l'autre issue du défilé, les louves parurent. Le propulseur de Zour, par deux fois, lança des sagaies qui trouaient les épaules et la massue s'élevait pour un écrasement suprême. Ce fut la panique. Les hommes d'Aul reculaient tous ensemble, entraînant les blessés et même les morts. Ils renversaient les blocs, roulaient sur la pente, se réfugiaient dans les anfractuosités et les fissures. Il ne restait qu'un mort et un blessé qui rauquaient lamentablement. Les femmes l'achevèrent. L'incertitude tint les assiégés immobiles à l'ouverture du défilé. Les Chéléens étaient redevenus invisibles. Des cadavres gisaient parmi les schistes. Alors la victoire exalta les femmes. Elles se penchaient sur les blocs et clamaient sauvagement. Aoun, malgré ses blessures, connaissait une joie orgueilleuse. N'est-ce pas lui qui avait brisé le choc des épieux, terrassé le chef et répandu l'épouvante parmi les hommes d'Aul? Il avait aussi sauvé Djéa de la pointe qui allait lui percer la poitrine. Son regard rencontra le regard de la guerrière, si bien qu'une émotion subtile se mêlait au triomphe devant les beaux yeux d'ombre, devant les grands cheveux répandus comme une végétation plus douce que toutes les plantes fines de la savane ou de la jungle. Le roi disait « Zour et les femmes ont trouvé du bois en abondance. Le radeau est presque fini. » C'est bien. Le fils de Lurus demeurera avec six louves pour défendre le défilé. Zour achèvera le radeau avec les autres. Une lamentation s'élevait. La femme blessée sentait venir l'horreur mystérieuse, le souffle glacé du néant. Son âme étroite et précise s'emplit d'un vœu immense. Elle revit les sylves et les aurores, les jours où la vie abonde, les soirs où le feu répand sa vie chaude. La mémoire de la durée était en elle que n'ont point les gores, les dôles ni les lions. La mémoire née de la parole qui ressuscite les jours révolus. Un moment, elle connut le regret amer, la fièvre ardente du passé. Puis elle ignora. L'éclair s'évanouit qui avait montré la mort. Elle ne fut qu'une bête obscure qui s'éteint dans l'immensité impassible et son visage devint roide tandis que ses compagnes poussaient une clameur grave, une mélopée confuse où s'ébauchaient les rythmes et les chants de l'homme. Le temps a passé. On dirait que les Chéléens ont disparu. Mais Aoun les entend grouiller vers la gauche et sait qu'ils se frayent une voie pour franchir les cimes et fermer la retraite à l'autre issue de la passe. S'ils parviennent au but, leur victoire est certaine. Malgré leur perte, ils conservent la supériorité du nombre, de la force et de l'agilité. Seul Loulambre les domine et seul Ouchre vaut un de leurs guerriers. Mais Ouchre et Aoun sont affaiblis par leurs blessures. Et Loulambre écoute avec une inquiétude croissante les mouvements de l'adversaire. À la longue, plusieurs Chéléens deviennent visibles. Ils sont parvenus à 5 coudées d'une corniche, tantôt en grimpant sur les épaules des compagnons, tantôt en creusant des marches dans le schiste friable. Pour atteindre la corniche, il suffira de pratiquer 5 ou 6 marches sur une pente lisse, légèrement inclinée. Ils commencent à tailler les 2 premières. Pour les arrêter, Aoun lance son dernier harpon, mais l'arme ricoche sur une saillie. Il jette aussi quelques pierres que la distance rend inefficace. Aucune attaque directe n'apparaît possible. La lutte est entre ceux qui relient les branches du radeau et ceux qui creusent le sol. Puisqu'aucune attaque du défilé n'est imminente, Aoun renvoie 2 femmes pour hâter l'œuvre du roi. La 3e marche, puis la 4e sont tracées. Encore une, et les hommes d'Aoul atteindront la corniche d'où ils s'élanceront vers la cime. Cette dernière marche semble plus difficile à réussir que les autres. Mais déjà, un Chéléen perché sur les épaules d'un autre l'entame. Alors, Aoun dit à ses compagnes, « Allez rejoindre Zour, il faut que le radeau soit terminé. Aoun défendra seul le passage. » Ouchre, ayant scruté les rocs, appelle les autres femmes. Djéa enveloppe Aoun d'un regard suppliant et s'éloigne avec une faible plainte. Penché sur les crénelures, il lance des pierres sans pouvoir arrêter les Chéléens. La marche est terminée. Un premier guerrier se hisse sur la corniche, puis un autre. Le chef même, que la massue de Loulambre avait stupéfié, rampe le long des schistes. En peu de bonds, Aoun atteint l'autre issue de la passe, puis descend vers le fleuve. Déjà les premiers Chelléens surgissent à la cime. Le radeau n'est pas fini, dit Zour, mais il nous portera jusqu'à l'autre rive. Sur un signe d'Aoun, les femmes saisirent l'informe enchevêtrement de branches et de lianes et le firent descendre sur le fleuve. Un long rugissement s'éleva. Les Chelléens arrivaient. Pêle-mêle, les femmes s'embarquèrent et l'ennemi n'était qu'à 50 coudées lorsqu'Aoun et Zour les suivirent. Avant 8 matins, nous aurons anéanti les hommes d'Aoul, gronda le fils de l'Urus, tandis que l'eau emportait l'embarcation. Retour à la caverne. Le radeau dériva. Les remous du fleuve le faisaient tournoyer, ou bien le courant l'emportait avec une vitesse inquiétante. Plusieurs fois, les louves s'étaient jetées à l'eau pour alléger l'embarcation qui, hâtivement construite, menaçait de se disloquer. À cause des crocodiles, il avait fallu abandonner cette manœuvre. Cependant, on approcha de la rive. Là-bas, très loin, on apercevait les silhouettes des Chelléens. Pour reprendre la poursuite, il leur fallait passer le fleuve, et ils ne pouvaient le faire d'autre manière que les fugitifs. Aoun dit à Zour, « Il faut marcher jusqu'au soir. Avant 4 jours, nous aurons atteint la caverne. » Ils se regardèrent. Une même pensée germait dans leur crâne. « Aoun et Ouchre sont blessés, » remarqua tristement le Oua. Loulamre répondit, « Si nous ne prenons pas l'avance, les hommes d'Aoul nous extermineront. » Ouchre leva dédaigneusement les épaules. Sa blessure était peu profonde. Elle cueillit quelques herbes qu'elle appliqua sur la plaie, tandis que Zour pansait son compagnon. Puis la bande s'orienta. La route fut rude à travers les terres marécageuses, mais vers le soir, Aoun et Zour commencèrent à s'y reconnaître. Le lendemain, le surlendemain, s'écoulèrent sans alerte. On était à 2 journées de la chaîne basaltique. Zour multipliait les ruses pour dérober les traces. Le 5e matin, la chaîne basaltique apparut. Du haut d'une colline, près d'un détour du fleuve, on discernait la longue arête de ses crénelures. Aoun, qui grelottait, fixa ses yeux ardents sur la masse sombre et saisit l'épaule du Oua en murmurant « Nous allons revoir le tigre d'Exam. » Un rire bas distendit ses lèvres. Le refuge où ils avaient vécu des jours pleins de sécurité, la bête immense qui était leur amie, les matins clairs et les soirs où le feu rougeoyait sur la plateforme, reparaissaient en images incohérentes et heureuses. Et le grand Oulamre, tournant vers Djéa, son visage amaigri par la perte du sang, reprit. « Dans la caverne, nous pourrons braver 100 hommes d'Aoul. » Ouchre fit entendre une exclamation étouffée. Sa main se tendit vers l'aval du fleuve. Tous virent distinctement les Chelléens à 7 ou 8 000 coudées. La fuite reprit, aussi rapide que le permettaient les blessures de l'Oulamre et de la femme chef. Si l'on n'atteignait pas avant l'ennemi la chaîne basaltique, le sauvetage devenait impossible. Or, il fallait franchir au moins 20 000 coudées. La moitié de la distance fut parcourue, mais les Chelléens regagnaient 4 000 coudées. On les voyait accourir comme des chacals. Celui qu'ils redoutaient plus que tous les autres ensemble était affaibli par sa blessure. Ils le voyaient botter à l'arrière de la petite horde, et avec une allégresse triomphale, ils proféraient leurs cris de guerre. Il y eut une courte halte. Aoun fixait sur Zour des yeux où la fièvre du sang se mêlait à une fièvre inquiète. Dans ce moment terrible, Loulamre retint le Oua par l'épaule, mais on entendit plus proche les hurler. Aoun regarda Djéa, baissa la tête vers sa hanche sanglante, mesura la distance qui le séparait des hommes d'eau. Avec un grand soupir, il lâcha Zour qui s'enfuit vers le repère du félin géant, tandis qu'Aoun conduisait les femmes et les enfants à la caverne. Le félin géant. À l'arrivée devant la caverne, Aoun et les femmes avaient à peine 2 000 coudées d'avance. Il grimpa le premier avec Ouchre jusqu'à la plateforme pour organiser l'escalade, puis successivement les autres arrivèrent. On hissa d'abord les enfants, les femmes suivirent. Les 3 dernières étaient encore à mi-hauteur, lorsque les hommes d'eau lancèrent des pierres aiguës. Elles rebondissaient sur le roc. Aoun brandit sa dernière sagaie, Ouchre et ses compagnes jetèrent des cailloux. Trop peu nombreuses encore pour tenter l'assaut, les Chelléens se retirèrent à l'abri des projectiles et quand l'arrière-garde survint, les louves occupaient la caverne. Elle était inexpugnable. Un homme ou une femme à la fois pouvait atteindre la plateforme. Il fallait ensuite grimper sur les épaules d'un compagnon. Un ou deux coups d'épieu défiraient chaque tentative. Les Chelléens le comprirent. Ils épiaient la chaîne basaltique dans l'espoir de trouver une voie parallèle. Tout autour de la caverne, la muraille se décela infranchissable. Peu importe, Odôle, il suffira d'attendre. La faim, la soif livreront les assiégés. Là-bas, au défilé, ils ont pu fuir et traverser le fleuve. Ici, le jour de la sortie sera le jour de la mort. Que peuvent 11 femmes et 2 hommes contre 20 guerriers pleins de force? Lorsque les femmes sont sauves, Aoun place deux guetteuses sur la plateforme et défend qu'on le suive. Puis, ayant allumé un brandon, il descend vers la caverne profonde. L'inquiétude tenaille sa chair. Il croit impossible que le félin géant n'ait pas reconnu Zour, et toutefois il doute. À mi-chemin, un grondement hâte sa course. La fissure est là, où si souvent il est venu épier la bête. Et soudain sa poitrine s'élargit. Il a vu Zour auprès du carnivore, et deux yeux énormes phosphores, tandis qu'un souffle haletant accueille l'oulamre. Le lion des rocs est toujours l'allié du fils de la terre et du fils de l'Urus, dit le oie. Ce fut un moment de joie sourde et de vaste espérance. Les hommes d'Aul n'ont pas suivi la piste de Zour? Ils ne l'ont pas vu se séparer des autres. Zour s'était caché parmi les blocs. Après avoir longuement flairé Aoun, le félin géant s'était recouché et commençait à se rendormir. Aoun reprit. Zour ne sortira que la nuit avec le tigre d'Exam. Il ne fera rien contre les hommes d'Aul avant qu'Aoun soit redevenu fort. Pendant le jour, Zour ne s'éloignera de la caverne que jusqu'à la mare. La mare est proche. Aoun et les femmes auront besoin d'eau. Aoun soupira. Il vit la mare, le fleuve, les sources. La soif le harcelait, exalté par sa blessure. Il ne put s'empêcher de dire. La soif brûle Aoun, mais il attendra jusqu'au soir. La mare est proche, répéta Zour. Pour qu'Aoun guérisse et puisse combattre, il doit boire. J'irai jusqu'à la mare. Il se dirigea vers l'entrée du repère. Le félin entr'ouvrit les yeux, mais à peine, car il ne flairait rien d'insolite. Zour se glissa jusqu'à la mare. La configuration du site le rendait invisible à distance. Il but d'abord, puis il plongea dans l'eau une outre rudimentaire faite avec la peau d'un axis et fixée dans sa partie supérieure avec des épines. Elle contenait assez de liquide pour étancher la soif de plusieurs hommes. Zour la remplit et regagna la tanière. Aoun but à longs traits l'eau vivante qui ramenait l'énergie, la fraîcheur et la confiance. « Ouchre aussi est blessé, » dit-il. « Les autres boiront cette nuit. » Il emporta l'outre dans la caverne haute, mais quand Ouchre eut bu, il donna aussi de l'eau à Djéa. Il dormit jusqu'au soir, et dans ce sommeil, sa force et sa jeunesse travaillèrent. La fièvre décrut. Les chairs, qui n'attendaient que le repos, se ressoudèrent au bord de la plaie. Quand le crépuscule fut mort sur les jungles, il se leva pour épier les Chelléens. Ils avaient allumé un grand feu. Les visages épais se tournaient vers la chaîne de basalte. On y devinait la volonté opiniâtre de vaincre et de détruire. Une grande angoisse étreignait les femmes. Harassées par la longue poursuite, elles aussi avaient dormi. Bien plus que la faim, la soif les éveillait. Toutes tournaient vers l'oulamre des yeux de détresse et songeaient à l'eau qu'il avait apportée dans la peau de cerf, mais dont seul Ouchre et Djéa avaient eu leur part. La confiance des faibles dans le fort alternait avec la crainte. Ouchre demanda « Où est allé Zour ?» Le fils de l'Urus répondit « Zour nous donnera de la chair et de l'eau avant la nuit. Pourquoi n'est-il pas avec nous ?» Ouchre le saura plus tard. Il ajouta, voyant que la femme chef se tournait vers les ténèbres, « Aoun seul descendra au fond de la caverne, sinon nous aurons faim et soif. » Le mystère excita les mentalités obscures, puis elles se résignèrent. Il suffisait qu'Aoun eût donné de l'espoir. Toutes les louves, connaissant les temps de disette et d'aridité, toutes, et les enfants même, avaient enduré les longues privations et les attentes farouches. Les astres tournèrent dans l'éternité. Les hommes d'Aul dormaient. La plupart des femmes aussi s'étaient endormies. Aoun même reposait. Vers le milieu de la nuit, un appel monta de l'abîme et réveilla l'Oulamre. Il alluma un brandon et descendit. Le félin géant et le oua avaient terminé la chasse. La carcasse d'un énorme rucervus gisait dans le repère. Déjà, l'homme sans épaule avait détaché une cuisse qu'il glissa par la fissure, puis il alla puiser une première outre d'eau. Lorsqu'Aoun reparut avec la chair et l'outre, il y eut un frémissement parmi les femmes et un confus éveil de fétichisme. La caverne contenait encore quelques branches abandonnées par les deux compagnons avant leur exode. Aoun, après être redescendu pour chercher de l'eau, alluma le foyer et fit cuire la chair du cervidé. C'était un défi et une imprudence. Les veilleurs chelléens avertirent le chef qui se dressa, stupéfait. L'événement était trop complexe. Le chef devina qu'il y avait du bois dans la caverne, mais il crut que la chair venait d'une bête tuée pendant la poursuite. S'il y avait une seconde issue, les fugitifs s'en seraient servis pour fuir. Néanmoins, il envoya des guerriers de l'autre côté de la chaîne basaltique. Ils contournèrent l'éperon méridional et, à la clarté de la lune, s'efforcèrent de discerner les crevasses et les cavernes. Rien que des fissures étroites, des replis et quelques abris sous des roches surplombantes. La coulée par Ouzour avait échappé aux lions, les arrêta quelque temps, et quand ils l'eurent dépassé, ils distinguèrent un antre ténébreux. Une odeur forte flottait dans la nuit. Les guerriers connurent qu'un fauve était proche et firent halte. Leurs propres émanations se répandirent jusqu'au repère. Une forme massive s'avança, un rugissement ébranla l'atmosphère et les nomades épouvantés s'enfuirent éperdument, ayant reconnu le plus redoutable des carnivores. Le chef demeura persuadé qu'aucune autre issue n'était ouverte aux assiégés que celle que surveillaient ses guerriers. S'il avait pu avoir un doute, il se dissipa les jours suivants, car Aoun et les femmes se montraient régulièrement sur la plateforme, donc la fuite était impossible. Il suffirait d'attendre et de veiller. Il attendait l'heure du massacre. La guérison de l'Oulamre fut rapide. Son sang ardent réparait la blessure. La fièvre avait disparu et il apprenait aux femmes à mieux tailler les pierres qui leur servaient d'armes de jet. En bas, Zour continuait à pourvoir les réfugiés de chair et d'eau. Il accoutumait le félin géant à le suivre. La bête, obscurément consciente des ruses salutaires de l'homme, consentait à être guidée. Zour prévoyait ses impulsions et devinait ses actes selon les circonstances. Il percevait les nuances de son humeur et s'y conformait avec tant de souplesse que le fauve s'attachait plus sûrement au oua qu'il ne se fût attaché à un animal de sa propre espèce. La huitième nuit, Aoun étant descendu pour prendre la proie, dit « La blessure est refermée. Le fils de l'Urus peut maintenant combattre les hommes d'Aul. La nuit prochaine, Zour amènera le tigre d'Exam de l'autre côté des roches. » Le oua demeura quelque temps silencieux. Puis il répliqua « Voici. Zour a senti ce matin qu'une pierre de la fissure tremble. Si nous pouvions l'arracher, l'ouverture serait assez large pour laisser passer un homme et trop étroite pour le lion des rocs. » Il posait la main sur la saillie la plus basse et, la secouant, il lui imprimait une oscillation d'abord imperceptible mais qui s'accusait à mesure. Aoun, plein d'admiration, joignit son effort à celui du oua. Son bras musculeux fit basculer la pierre. Alors il tira de toute sa force, tandis que Zour poussait des deux mains. Un fragment se détacha, puis deux autres. L'Oulamre les rejeta derrière lui, et s'aplatissant sur le sol, il pénétra dans le repaire. Le félin géant, impatienté par cette agitation, avait cessé de dévorer sa proie. Il bondit, presque menaçant. Tout de suite, une caresse de Zour l'apaisa, et il flaira Aoun amicalement. « Nous pourrons surprendre les hommes d'Aul !» s'écria l'Oulamre. Le oua montra vers l'entrée de la caverne une dizaine de sagaies qu'il avait taillées pendant les longs jours solitaires. « Nous combattrons à distance. » Le jour suivant, Aoun et Zour taillèrent encore des sagaies, en sorte que le nombre total s'élevait à 14. Au crépuscule, l'Oulamre avertit Ouchre et ses compagnes. « Aoun et Zour combattront cette nuit les hommes d'Aul. Que les femmes louves se tiennent prêtes. » Ouchre écoutait avec étonnement. Comment Aoun et Zour se rejoindront-ils? Il se mit à rire. Nous avons élargi le passage entre deux cavernes. Nous passerons de l'autre côté des rocs et nous attaquerons les hommes d'Aul avec notre allié. Aounezour ont donc un allié? Ils ont fait alliance avec le tigre d'Exam. Ouchre écoutait, stupéfaite. Parce que son âme était simple, elle ne chercha pas longtemps à comprendre. La confiance qu'elle avait dans le grand Oulâmre était plus forte que toute surprise. Le guerrier reprit. Les femmes ne devront pas descendre dans la plaine avant l'appel d'Aoun. Le tigre d'Exam les déchirerait. Djéa, plus émerveillée que les autres femmes, tournait vers Aoun des yeux brillants de curiosité. Le tigre ne peut-il passer d'une caverne à l'autre? Demanda-t-elle. L'entrée est trop petite pour lui. L'immense illusion commençait à pâlir dans les nuages. On voyait palpiter une étoile claire. Aoun redescendit vers la caverne inférieure. Le feu des Chelléens ne répandait plus qu'une lueur imprécise. Trois hommes, cependant, veillaient encore. Les autres étaient couchés dans une enceinte rocheuse qui les mettait à l'abri des surprises. Deux des guetteurs somnolaient. Le troisième, selon les ordres du chef, rôdait autour du feu et levait souvent les yeux vers la caverne. Le Chelléen venait de jeter quelques menues branches parmi les braises. Lorsque se relevant, il aperçut une silhouette sur la plateforme. C'était une femme. Elle se penchait au bord des roches. Elle épiait. Le guerrier tendit vers elle sa main armée de l'épieu et ricana silencieusement. Mais le ricanement s'effaça tout de suite. Au bas de la chaîne basaltique, une autre forme venait de surgir dont il était impossible de méconnaître la haute taille et la vaste poitrine. L'homme d'Aul la considéra quelque temps, interdit, et se demandant comment l'autre avait pu et osé descendre dans la plaine. Il appela les autres veilleurs, et tous trois, brandissant leurs armes, poussèrent le cri d'alarme. Cependant, Aoun se détachait des rocs. Il approcha hardiment du feu, et quand il fut à portée, il lança une pierre aiguë. Elle atteignit un des veilleurs à la tête et lui fit une blessure légère car l'Oulâmre l'avait jetée trop loin. Une deuxième pierre écorcha l'épaule d'un autre guerrier. Des vociférations retentirent et de toutes parts des silhouettes surgissaient de l'enceinte rocheuse. Alors, développant sa puissante stature, Aoun répondit par le cri de guerre. Il y eut une courte pause, pendant laquelle les Chelléens considéraient alternativement l'Oulâmre et le site. Là-haut, deux autres femmes venaient de rejoindre la première, et dans la plaine, on apercevait Kaoun, sans autres armes que sa massue et quelques pierres. Effaré, le chef d'Aul cherchait à comprendre. D'obscures méfiances se mêlaient à la certitude que l'Oulâmre était seul. L'instinct de guerre l'emporta. Une voix gutturale donna l'ordre d'attaquer, et ce fut la ruée. 20 structures agiles convergèrent vers le fils de l'Urus. Il jeta une dernière pierre et se mit à fuir. Sa vitesse semblait diminuer. Les plus véloces des chasseurs gagnaient du terrain et les autres, exaltés par l'imminence de la capture, suivaient à grande vitesse. Par instants, on eût dit que l'Oulâmre trébuchait. Parfois aussi, il semblait faire un grand effort et reprenait une avance vite perdue. Le chef n'était qu'à 30 coudées du fugitif lorsqu'on approcha de l'éperon qui terminait la chaîne basaltique. Les Chelléens eurent l'air de triomphe. Aoun, avec une sorte de plainte, obliqua et se réfugia dans les roches. Elles formaient une série de couloirs qui tous se terminaient au midi dans une passe plus large. Le chef s'arrêta, jeta un coup d'œil rapide sur l'ambiance et commanda à plusieurs guerriers de barrer l'issue tandis qu'il lançait 8 hommes à la poursuite directe. Un rire farouche retentit, puis un rugissement, et l'on vit un corps énorme retomber parmi les roches. Déjà le félin géant était sur les Chelléens. Trois hommes roulèrent éventrés, un quatrième retomba la gorge béante. Mais Aounezour avait gravi une roche plate. Les propulseurs tournoyèrent, les sagets s'enfonçaient dans les poitrines, perçaient les cuisses et les épaules, tandis que le carnivore, émergeant des défilés, broyait un fuyard et en déchirait un autre. La panique emportait les hommes d'Aul. Dans leurs cervelles opaques, un mystère vertigineux se mêlait à l'horreur de la mort. Le chef même fuyait. Toute son agilité était revenue à l'Oulâmre. En bond de léopard, il rejoignit l'arrière-garde et la massue sonna sur les crânes durs. Quand les Chelléens rejoignirent leur enceinte de roche, ils n'étaient plus que 8. Les autres gisaient dans l'herbe, morts ou incapables de participer à la lutte. « Que Zour arrête le tigre d'Exam !» s'écria Aoun. Abrités dans leur fort, les vaincus devenaient redoutables. Le désespoir était en eux. Leurs épieux, à travers les crénelures, auraient pu éventrer le fauve. Celui-ci se laissa retenir sans peine. Il voyait partout les proies éparses. Tranquille, il saisit une carcasse dans ses mâchoires et prit la route du repère. L'incertitude immobilisa pendant quelque temps le fils de Lurus. Puis il dit « Zour accompagnera le tigre d'Exam. Il reviendra par la caverne haute et dira aux femmes de se tenir prêtes. » Le oie et le félin géant disparurent derrière les roches. Aoun se mit à ramasser les sagaies ou à les retirer des blessures. Puis il revint lentement vers l'échelle Léa. Il les apercevait à travers les interstices de leur enceinte. Il aurait pu en atteindre plusieurs, mais l'âme de Nao était en lui, pleine de pitiés obscures. Pourquoi les dôles ont-ils attaqué les hommes velus? Pourquoi ont-ils voulu tuer Aoun et les femmes louves? Sa voix retentissante avait des inflexions tristes. L'échelle Léa l'écoutait en silence. Un moment, le chef à la poitrine profonde surgit entre deux blocs et fit un geste d'attaque. Loulam réleva son propulseur et reprit. Aoun est plus fort et plus rapide que le chef d'Aul, et il peut le tuer à distance. Là-haut, les femmes élevaient des clameurs triomphales. Elles avaient vu les péripéties de la lutte, l'apparition extraordinaire de la bête, et leurs âmes s'emplissaient d'une confiance mystique. Djéa descendit la première, puis Ouchr, puis les autres, sauf une qui devait garder la caverne. Elles s'assemblaient autour d'Aoun. Elles épiaient l'enceinte avec une ardeur sombre et se souvenant de leur souffrance, elles injuriaient les Chéléens. Eux gardaient le silence, mais rudes et résolus, ils tenaient prêts leurs longs épieux. La position était inexpugnable. Sans la présence d'Aoun, ils eussent été les plus forts. Or, Ouchr, aucune des femmes n'aurait résisté au choc. Elles le savaient. Malgré leur haine, elles rôdaient avec prudence. Cependant, rapprochées du feu, elles prenaient plaisir à y jeter des branches, des broussailles et des herbes. Il se ranima, il bondit magnifiquement sur la savane. De toutes parts, les femmes apportaient du bois. Plusieurs criaient. « Les hommes d'Aul n'osent pas combattre, ils mourront de faim et de soif. » À mesure que les constellations tournaient au septentrion ou se levaient à l'Orient, l'inquiétude et l'impatience se mirent à croître. Les assiégés parurent plus formidables. On craignait leurs pièges. Aucune femme n'osait dormir. Aoun et Zour même concevaient la nécessité de combattre. Le oua dit « Il faut forcer les hommes d'Aul à quitter leur refuge. » À force d'y songer, une idée lui était venue. « Ils ne résisteront pas au feu. Aoun, Zour et les femmes leur lanceront des tisons enflammés, » reprit-il. Loulam repoussa une exclamation d'enthousiasme. Tous deux se mirent à tailler des rameaux dont ils exposaient la pointe à la flamme. Ensuite, ils appelèrent les femmes et le oua, ayant expliqué son stratagème, toutes saisirent les tisons et se précipitèrent vers l'enceinte. Une pluie de feu s'abattit sur les Chéléens. Ils résistèrent d'abord, mais la crainte et la fureur s'enflaient dans leur poitrine. La fumée les suffoquait, les brûlures leur donnaient le vertige. Peu à peu, tout péril parut préférable à celui qui menaçait de les anéantir sans combattre. La masse trapue du chef se dressa sur un bloc. Il poussa un hurlement rauque, et lorsqu'il se précipita, sept guerriers bondirent à sa suite. Sur un ordre d'Aoun, les femmes battirent en retraite. Deux fois les propulseurs tournoyèrent, et deux hommes d'Aoul s'abattirent. Des six qui restaient, cinq chargèrent le groupe des femmes et du oua. Le sixième fonça sur Aoun, qui se tenait à l'écart. Le fils de Lurus lança une nouvelle sagaie qui effleura une épaule, puis déployant sa belle stature, il attendit. Il aurait pu fuir, lasser l'adversaire. Il préféra la lutte. Celui qui venait, c'était le chef aux grandes épaules, à la tête de granit. Il dardait les pieux ainsi qu'une corne immense. L'arme rencontra la massue, fléchit et se déroba, revint en foudre. La poitrine d'Aoun saigna, mais la massue, à son tour, fit craquer les os du chef. Il tomba sur les genoux en lâchant les pieux, dans la résignation des fauves vaincus, sachant que la fin était venue. Aoun avait relevé la massue et ne la baissa point. Un dégoût étrange contractait sa poitrine, cette pitié qui était sa faiblesse et la faiblesse de Nao. Là-bas, deux femmes gisaient sur l'herbe, mais les sagaies de Zour et les épieux avaient fait leur œuvre. Trois Chelléens hurlaient que les louves achevaient. Le quatrième, le plus jeune, fou d'épouvante, fuyait vers Aoun. Quand il se vit devant la massue énorme, ses muscles défaillirent, il tomba prosterné. Les femmes accouraient pour l'immoler. Le fils de l'Urus, étendant le bras, clamait. « Sa vie est aux mains d'Aoun !» Elles s'arrêtèrent. La haine crispa leur visage, puis entendant gémir les blessés de la première rencontre, elles allèrent leur porter les coups fatals. Sombre, Aoun écoutait les cris d'agonie et il se réjouit obscurément de voir que Djéa ne suivait pas ses compagnes. La Horde. Aoun, Zour et les femmes louves demeurèrent un mois dans la chaîne basaltique. Une seule femme était morte, quatre autres étaient blessées. La plaie d'Aoun n'avait aucune gravité. Délivrés des Chelléens, ils furent les maîtres de la savane, de la jungle et du fleuve. Par sa seule présence, le félin géant chassait au loin les grands fauves. Ainsi la vie fut ample et facile. Parce qu'ils avaient couru tant de périls, Aoun et Zour goûtaient le repos dans sa plénitude. Zour aimait ces heures vagues où les souvenirs et les images déferlent dans la tête. Son âme connaissait la douceur des repliements que lui avait transmise une race destinée à s'éteindre. Il ne s'éveillait que pour inventer des pièges, pour aller cueillir des racines comestibles. Dans le repos même, Aoun était la proie d'instincts tumultueux et de besoins confus qui dilataient son être. Il était continuellement surpris par le flottement épars de la chevelure, par la lueur changeante des prunelles de Djéa. Tout en elle semblait se renouveler comme les matins sur le fleuve, comme les fleurs sur la savane. Parfois une révolte traversait la poitrine du nomade. Il devenait comme les autres hommes. Il méprisait la faiblesse. L'instinct tendre devenait rude et belliqueux, et il se tournait vers Ouchre, prêt à lui demander de célébrer les rites de sa race, de terrasser Djéa et de lui blesser la poitrine avec une pierre de silex. Les femmes ne demandaient pas une autre existence que celle qui leur donnait une sécurité si profonde. Elles perdaient le sens de leur liberté. Elles abritaient leur destin sous celui du grand Toulamre. L'avenir échappant à leurs imaginations courtes, elles n'avaient plus, après la longue infortune, d'autre désir que cette abondance tranquille qui se renouvelle chaque soir et chaque matin. Elles avaient même accepté qu'Aoun relâchât les deux captifs. Lui-même les avait conduits jusqu'à la fourche du fleuve et de la rivière. On ne fut plus qu'à 5 semaines de la saison des pluies. Aoun songeait plus souvent à sa horde, à Nao, vainqueur d'Exam, des nains rouges et d'Agou le velu, au feu des soirs et aux rudes compagnons dont pourtant il n'aimait point la férocité. Un matin, il dit à Ouchre, « Voici, Aoun et Zour vont revoir leur horde. Les louves choisiront une caverne près de la montagne. Après les temps froids, les oulams reviendront. Ils seront les alliés des louves. » Ouchre et les louves sentirent peser la menace du monde. C'était dans la plaine, près de la rive du fleuve. Elle se pressait auprès du fils de l'Urus. Les plus jeunes gémirent. Djéa avait bondi. Sa poitrine était haletante. Ses yeux immenses se remplissaient de larmes. Aoun, ivre, la contempla quelque temps en silence. Il dit, Ouchre a promis que Djéa serait la femme d'Aoun. Djéa obéira. Il se tourna vers Ouchre et murmura avec un léger tremblement. Donne-moi Djéa comme compagne. Ouchre jeta au chef un regard où passait une longue mélancolie. Puis elle saisit Djéa par la nuque et la terrassa. Ensuite, abaissant la pierre aiguë, elle fit une longue blessure qui allait d'une épaule au milieu de la poitrine. Le sang jaillit où Aoun trempa ses lèvres. Ouchre prononça des paroles qu'avaient prononcées les ancêtres et qui donnaient la femme à l'homme. Le lendemain, la petite troupe se mit en route. Aoun et Zour avaient quitté tristement le félin géant. Le roi était plus chagrin que son compagnon, n'ayant pas d'amour au cœur. Sa race devait finir en lui. Il regrettait amèrement la caverne et cette alliance avec le fauve qui était son œuvre. Car rien ne l'attirait vers la horde. Il y était étranger et les jeunes oulamres le méprisaient. Ils traversèrent l'endroit où les lions jaunes s'étaient enfuis devant les éléphants ancêtres. Ils passèrent près de l'arête granitique où le Machérodus avait dévoré le rhinocéros, où Aoun avait tué le Machérodus. puis ils arrivèrent devant ce dur promontoire que la montagne avançait dans la terre chéléenne. De là-haut, ils avaient découvert le fleuve et l'étrange bête rouge qui vivait déjà au temps où le félin géant, précurseur du lion et du tigre, n'existait pas encore. C'est là que les louves choisirent une caverne spacieuse pour passer la saison des pluies. Ensuite, elles aidèrent Aoun et Zour à trouver une voie vers la montagne. Et la séparation fut farouche. Elles ne sentiraient plus auprès d'elles cette force qui les avait délivrées des Chéléens. Elles vivraient seules devant le monde plein de pièges. Au pied de la ravine où les trois voyageurs s'engagèrent, elles poussèrent une longue plainte. Aoun clamait. « Nous reviendrons au bord du grand fleuve. » Son propre cœur était lourd. La terre qu'il quittait était pleine d'embûches et d'ennemis, mais il avait triomphé, il avait été le maître des périls. Les hommes et les bêtes s'étaient pliés sous sa force, il emportait Djéa. Zour ne rêvait pas d'autre joie que de retourner vers la chaîne basaltique. Les matins et les soirs moururent. Aoun, Zour et Djéa suivaient les sentiers violents de la montagne. Aoun avait hâte de revoir la horde. Chaque étape qui le rapprochait rappelait des joies à son âme jeune. Le temps vint où ils retrouvèrent ce haut défilé qui s'était présenté au sortir de la montagne. Puis ils arrivèrent devant la fissure. Comme elle s'était élargie, ils eurent moins de peine à la traverser. Les cavernes furent là où retentissait la voix des eaux. Ils y dormirent, puis ils passèrent 2 jours avant de retrouver la horde. C'était vers le déclin du jour, au pied d'une colline, sous le surplomb d'un énorme roc de porphyre. Les femmes entassaient les branches sèches où Nao devait mettre le feu. Les guetteurs clamèrent et Aoun parut le premier devant le fils du léopard. Il y eut un grand silence. Les femmes épiaient Djéa avec malveillance. Nao dit gravement « Il y a une saison que vous êtes partis. Nous avons traversé la montagne. » « Et nous avons découvert de grandes terres de chasse, » répondit Aoun. Le visage de Nao s'épanouit. Il se souvint de ces temps farouches où il s'était mis en route avec Nam et Gaou pour conquérir le feu. Il revécut la bataille avec l'ours gris et la tigresse, la poursuite des dévoreurs d'hommes, l'alliance avec le chef des mammouths, la perfidie des nains rouges et la douceur des oies, la forêt des hommes aux poils bleus, la surprise de l'ours des cavernes et la rencontre terrible au retour d'Agou le velu. Il avait rapporté le feu et le secret de le tirer des pierres appris chez les hommes sans épaules. « Va, dit-il, Nao écoute le fils de Lurus. » Il mit le feu au bûcher et laissa parler son fils. À mesure, son âme aventureuse s'exaltait. La bête rouge le remplit d'étonnement. Mais il se révolta quand Aoun déclara que les éléphants ancêtres étaient plus grands que les mammouths. « Aucune bête n'est plus grande que le mammouth avec qui Nao a vécu dans le pays d'Exam. » Il reconnut le fauve qui vivait dans la chaîne basaltique et il interpella Nam. « Il tue le tigre aussi facilement que le lion tue une panthère. » L'alliance avec le félin géant l'enthousiasma. Il tourna vers Zour sa face bienveillante. Les oies furent les plus rusés des hommes. Ce sont eux qui trouvèrent le feu dans la pierre. Ils traversaient les eaux sur des branches entrelacées et connaissaient les eaux qui coulent sous la terre. Les combats avec les Chéléens firent haleter sa poitrine. Les yeux étincelants, il posa la main sur l'épaule du jeune homme. Aoun a le cœur et la force d'un chef. Tout autour, les oulams écoutaient, mais ils demeuraient pleins de méfiance. Il songeait que Nao avait reconquis le feu et sauvé la horde qui mourait de froid sur les roches, tandis qu'Aoun ne rapportait qu'une fille étrangère et ce compagnon chétif que personne n'aimait. Kouam, fils de Légagre, s'exclama. Aoun n'a-t-il pas dit que ces terres sont beaucoup plus chaudes que les nôtres? Les oulamres ne pourront pas y vivre. Quand nous avons traversé la plaine calcinée, les guerriers et les femmes mouraient comme des sauterelles en automne. Des voix sourdes approuvèrent. Aoun connut que la horde l'aimait moins encore qu'avant son départ. Pendant une semaine, le fils de Lurus goûta la douceur d'être parmi les hommes de sa race. Il s'en allait à la chasse avec les autres, ou bien il se tenait auprès de Djéa, à qui les femmes de la horde ne parlaient point. Peu à peu, une tristesse contracta sa poitrine. Il avait le sentiment d'avoir accompli une tâche égale à celle de Nao. S'il ne rapportait pas le feu, il venait annoncer qu'une terre immense et inépuisable de vie existait au-delà des montagnes. Il se connaissait supérieur à tous les jeunes hommes et aussi fort que le chef. Or les Oulamres ne l'admiraient point. Tous lui préféraient Kouam, dont la massue, ni le harpon, n'eussent pu lutter contre la massue et le harpon d'Aoun. C'est Kouam qui serait chef si le fils du léopard mourait. C'est à Kouam qu'il faudrait obéir. Et son commandement serait dur pour Aoun. Il exciterait contre lui, contre Djéa et contre Zour, des haines qui ne demanderaient qu'à grandir. Déjà, avant son départ, on reprochait au fils de l'Urus de préférer la compagnie du roi. Et maintenant, il s'était uni à une fille née sur une terre où jamais la horde n'avait pénétré. Ainsi, il devenait un étranger, et les femmes surtout le détestaient. Elles se détournaient de Djéa avec des paroles injurieuses. Quand elles étaient plusieurs, un murmure rauque s'élevait au passage de l'intruse. Les sœurs même d'Aoun la fuyaient. Au crépuscule, isolé avec la jeune louve et le oie, Aoun sentait plus vivement son humiliation. Une impatience terrible brûlait ses veines. Après quelques jours, il se révolta. Il n'essayait plus de se rapprocher des autres. Il s'isolait opiniâtrement avec Zour et Djéa. À la chasse, il s'écartait chaque fois que les ordres de Nao ne le retenaient pas auprès de la horde. Il fuyait pendant des journées entières auprès du fleuve souterrain. Et souvent, poussé par une impulsion trop forte, il se retrouvait devant cette fissure qui menait vers les pays de l'aventure. Un matin, il se mit à la recherche d'un léopard. Les léopards abondaient dans les forêts voisines. De grande taille, prudents et audacieux, voraces et agiles, ils exterminaient les élafes, les saïgas, les onagres et même les jeunes aurochs. Nao ne les chassait point, liés à eux par d'obscurs totémismes. Beaucoup d'oulamres les redoutaient, parce que blessés, ils se défendent avec acharnement. Peu de chasseurs solitaires osaient les attaquer. Dans la forêt, Aoun rôda longtemps sans trouver aucune trace de la bête. Un faible cours d'eau ruissela dans un lit de silex. Le nomade perçut l'odeur du léopard. Il se coucha parmi les fougères et s'immobilisa. À l'amont du rio, sous de longues arcades feuillues, il discernait une faible élévation rocheuse dont l'avancée formait une manière de caverne. Une bête y sommeillait, la tête entre les pattes, dans une sécurité profonde. Aoun, malgré la distance et la lumière affaiblie, reconnut le léopard. Près de 1200 coudées séparaient l'homme de la bête. Le guerrier avança de 800 coudées sans que la bête sortît de son assoupissement. Comme il s'engageait dans un fouillis de hautes herbes, la tête ronde se dressa. Deux feux d'ambre et d'émeraude s'allumèrent dans l'ombre des roches. Aoun s'aplatit contre la terre, tandis que le fauve flairait longuement. Un moment, les yeux étincelants épillèrent l'ambiance, puis le mufle s'abaissa, le torse ocellé redevint inerte. Aoun laissa passer de longues minutes avant de se remettre en route. Il lui fallait encore franchir près de 200 coudées. Ensuite, à l'aide du propulseur, il pourrait lancer une sagaie. À cette distance, si l'arme atteignait au but, la blessure ne pouvait être mortelle, mais Aoun espérait que la bête, furieuse, accepterait le combat. Une faible brise souffla qui emportait, obliquement, l'émanation du chasseur. Il se hâta, il gagna 150 coudées, puis se cacha derrière un arbre. De nouveau, le léopard relevait la tête aux écoutes, puis il sortit du repère pour mieux aspirer les effluves suspects. Soudain, une bramée se fit entendre. Une biche bondit entre les sycomores et le léopard s'élança. La biche fit un crochet vers l'arbre qui cachait Aoun. Le guerrier se leva et fit tournoyer le propulseur. Atteint à la nuque, le léopard poussa un miaulement frénétique. Il hésitait pourtant. Il épiait l'adversaire et il se glissa parmi les fougères. Pour éviter une surprise, Aoun se plaça dans un endroit découvert, tenant d'une main la massue et de l'autre une sagaie. Le léopard ne se décidait pas à l'attaque. À travers les végétaux, il apercevait distinctement l'homme et il cherchait un moyen de l'approcher à couvert et de sauter sur la nuque. Sa fureur était tombée. Il sentait à peine sa blessure et quoiqu'il eût déjoué toutes les embûches des oulamres, il pressentait un ennemi dangereux. Il tenta de tourner la position et se vit partout à plusieurs bonds de l'homme. Aoun, apercevant le pelage ocellé, lança la sagaie. Elle dévia dans les fougères. le léopard battit en retraite vers les futaies profondes. Depuis quelque temps, d'autres êtres s'agitaient dans la sylve. Le chasseur flaira l'approche d'une troupe d'hommes. Poussant un cri de ralliement, il s'élança à la poursuite du félin. Des têtes surgirent, éparses, des sagaies volèrent sans résultat. Soudain, Kouam montra son torse musculeux et, brandissant le propulseur, lança un harpon. Atteint au flanc, le léopard rebondit et tournoya, prêt à la bataille. Kouam avait disparu, toutes les têtes s'étaient dissimulées. Seul Aoun demeurait visible. Le léopard n'hésita plus. En trois bonds, il fut sur le fils de l'Urus et il s'élança. La massue l'arrêta et le rejeta sur la terre. Puis elle fracassa le crâne et la bête, roulant sur elle-même avec un cri rauque, expira. Alors, Kouam et ses compagnons accoururent. Appuyés sur sa massue, le fils de l'Urus les regardait venir. Il croyait qu'ils admireraient sa force. Une douceur amicale, l'attrait de la race montait en lui. Mais les faces étaient dures. Un de ceux qui suivaient Kouam, ainsi que Zour suivant Aoun, s'exclama. « Kouam a vaincu le léopard !» Des grognements l'approuvèrent. Kouam se dressait devant le cadavre, montrant le harpon profondément enfoncé dans ses côtes. Aoun se révolta. « Ce n'est pas Kouam qui a vaincu le léopard !» Les oulams ricanèrent en montrant le harpon. L'homme qui avait parlé d'abord reprit. « C'est Kouam. Aoun a achevé la victoire. » Le fils de l'Urus éleva sa massue. La colère hurlait dans sa poitrine. Il clama avec dédain. « Qu'est-ce qu'un léopard ? Aoun a vaincu la bête rouge, le tigre et les hommes d'aule. Nao seul est aussi fort. » Kouam ne recula point. Il sentait autour de lui les poitrines des compagnons. Kouam ne craint ni le lion ni le tigre. Une tristesse amère pesa sur le cœur d'Aoun. Il fut comme un étranger devant ces hommes de sa race. Saisissant la carcasse, il la jeta devant eux. « Voilà, le fils de l'Urus ne frappera pas des oulamres. Il leur donne le léopard. » Ils ne ricanaient plus. Leurs yeux féroces se fixaient sur la haute stature et la massue énorme. Tous reconnaissaient sournoisement cette force pareille à celle des grands fauves, mais ils la détestaient et ils en dédaignaient la douceur. Aoun retourna vers le campement, plein de dégoût et d'ennui. Quand il arriva près de la roche surplombante, il trouva Djéa toute seule, recroquevillée sur un bloc. Elle se leva à sa vue avec une plainte, sa joue saignait. « Djéa s'est blessée ? » fit-il en lui passant le bras autour des épaules. Elle répondit à voix basse. « Les femmes ont jeté des pierres. »« Elles ont jeté des pierres à Djéa ?» Elle inclina la tête. Un tremblement parcourut le nomade et voyant que le camp était désert, « Où sont-elles ? » demanda-t-il. « Je ne sais pas. » Il baissa la tête, farouche. La peine qui était en lui devint intolérable, et dans le silence qui suivit, il sentit qu'il ne voulait plus vivre avec la horde. « Djéa aimerait-elle retourner auprès des louves, avec Aoun et Zour ? » murmura-t-il. Elle leva vers lui une face où la joie hésitait à naître. C'était une créature soumise et craintive. Elle souffrait parmi les oulamres. Elle endurait la haine, le mépris, et la risée des femmes, plus accablée d'entendre à peine la langue de la horde. Elle n'osait se plaindre et n'aurait pas parlé de sa blessure si Aoun ne l'avait interrogée. Elle s'exclama. « Djéa ira, où ira Aoun ? » « Mais ne préfère-t-elle pas vivre avec sa horde ?»« Oui, chuchota-t-elle. » « Nous retournerons donc au bord du grand fleuve. » Elle poussa un soupir de délivrance et appuya sa tête sur l'épaule de l'homme. Au retour du oua qui revenait des terres souterraines, le fils de l'Urus l'attira à distance du campement, car les femmes et les chasseurs étaient revenus. « Voilà, » dit-il brusquement, « Aoun voudrait revoir les louves, le tigre d'Exam et la haute caverne. » Zour leva ses yeux vagues. Un rire ouvrit ses lèvres. Il savait que son compagnon vivait des jours chagrins dans la horde et lui-même avait le cœur lourd. « Zour sera heureux dans la haute caverne. » Ces mots dissipèrent la dernière incertitude du nomade. Il se rendit auprès de Nao qui reposait à l'écart sous une saillie de porphyre et déclara « Les guerriers n'aiment pas le fils de l'Urus. Il veut repartir de l'autre côté de la montagne. Il vivra avec les femmes louves et il sera l'allié des oulamres. » Nao écoutait gravement. Il avait de la prédilection pour le jeune homme, mais il connaissait la version de la Horde, il prévoyait des luttes pénibles. « La Horde est mécontente de voir Aoun avec des étrangers, » acquiesça-t-il. « Elle ne lui pardonnera pas s'il demeure avec elle. Mais les Oulams respectent les alliés. Ils ont combattu avec les hommes sans épaules. Ils préféreront Aoun quand il les aura quittés. Et voici. Au printemps, Nao conduira les siens de l'autre côté de la montagne. Il occupera les plateaux, tandis que les louves occuperont la plaine. S'il descend pendant les saisons froides, il ne chassera pas sur la même rive qu'Aoun. Ainsi l'alliance sera sûre. » Il posa la main sur l'épaule du jeune homme et ajouta. « Le fils de l'Urus aurait été un grand chef parmi les Oulams s'il n'avait pas préféré le Oua aux hommes et une étrangère aux femmes. » Le fils de l'Urus reconnut la force de ses paroles, mais il ne regretta rien. Il préférait plus que jamais Zouredjéa. Seule l'absence de Nao lui serait dure. Aoun apportera des dents et des pierres brillantes au fils du léopard, murmura-t-il. Le crépuscule venait. Une mélancolie douce s'abattait sur les deux hommes. Leurs âmes étaient aussi semblables que leur destin était différent. Chacun avait porté au loin sa force et son audace. Mais des actes presque identiques faisaient du père un chef et du fils un exilé. Épilogue. Depuis la veille, un couple de Machérodus s'était établi parmi les roches à 300 pas de la caverne des loups. Elle connaissait l'agilité, la force, la ruse et l'audace de ces dévoreurs de pachydermes. Aucune n'osait sortir. La nuit précédente, les bêtes rouges avaient longtemps rôdé auprès du refuge. Parfois, elles se rapprochaient. On entendait des feulements ou des souffles rudes. Alors les femmes, hurlant toutes ensemble, jetaient des pierres aiguës. À cause des blocs, des épines et des branches accumulées pour la défense, les projectiles se perdaient. À la fin, d'autres proies les sollicitèrent, mais pendant le jour, tantôt le mâle, tantôt la femelle, entre deux sommeils, venaient guetter ces êtres énigmatiques. La saison des pluies était proche. Derrière leurs barrières, dans l'ombre des porphyres, les femmes songeaient aux nomades dont les bras terribles avaient vaincu les hommes d'Aule. Ce souvenir accroissait leur angoisse. Avec ses sagaies et sa massue, il aurait combattu les bêtes rouges. Sans doute les Machérodus n'avaient capturé la veille qu'une proie insuffisante, car ils vinrent épiller la caverne bien avant le crépuscule. Le jour était déjà sombre à cause des nuages accumulés dans le firmament. Un vent âpre montait de la plaine et se lamentait parmi les pierres. Des enfants pleuraient. Les louves entassées près de l'ouverture considéraient lugubrement l'étendue. Ouchre songeait que les fauves continueraient sans doute à habiter les roches. Le vent se lança plus durement à l'assaut de la montagne. Les Machérodus parurent ensemble devant le refuge et enflèrent leur voix rugissante. Ouchre, avec détresse, s'avança pour préparer la défense. Soudain, une arme longue fendit l'espace et atteint à la nuque, un des fauves, le mâle, se rua frénétiquement vers les louves. Les épieux se tendirent par les crénelures, un second trait s'enfonça dans le torse rouge, une clameur domina les rafales et un grand corps bondit, une massue tournoya formidablement. Pêle-mêle, les femmes renversaient les blocs qui défendaient leurs repères. Le Machérodus gisait immobile. La femelle, effrayée par son cri d'agonie et l'apparition de tant d'êtres, fuyait vers le fleuve. Les louves, grondantes de joie, se pressaient autour du sauveur. Toutes ses faces massives s'éclairèrent. Les yeux larges se fixaient sur Aoun avec une exaltation fétichique. Il ramenait la sécurité, la certitude de vaincre les éléments, les bêtes et les hommes. Et le fils de l'Urus, sentant que sa vie avec les Oulamres ne recommencerait jamais plus, s'écria. « Voilà, Aoun et Zour sont revenus parmi les louves. Ils ne les quitteront plus. Ils vivront tous ensemble dans la grande caverne auprès de laquelle ils ont exterminé les hommes d'Aul. » À mesure qu'il parlait, l'allégresse était plus profonde. Les louves se courbaient devant lui en signe d'obéissance et d'amour. Le cœur dilaté, il oublia le retour amer parmi les hommes de sa race. Il songeait qu'une horde nouvelle grandirait sous son commandement. « Ouchre et les louves seront tes guerrières, » dit la femme chef. « Où tu vivras, elles vivront. Elles accompliront ta volonté et elles suivront tes usages. » Elles deviendront redoutables, affirma Aoun. Elles apprendront à manier et à construire des harpons, des sagaies, des haches, des propulseurs. Elles ne craindront ni les hommes d'Aul, ni la bête rouge. Les femmes rassemblèrent des branches, le feu magnifique parla aux ténèbres. La nuit n'avait plus d'embûches, et le bonheur qui emplissait ces jeunes êtres s'étendait sur le grand fleuve. Ils n'en voyaient pas la fin. Zour gardait seul une mélancolie confuse. Sa volonté ne serait satisfaite que lorsqu'il reverrait la chaîne basaltique et le félin géant. À travers les rafales, le 12e jour, la petite horde atteignit la caverne. Des roussettes y avaient cherché refuge qui s'envolèrent à l'apparition d'Ouchre. Un faucon s'éleva avec un cri rauque. Debout sur la plateforme, Aoun étendit la main vers la savane et la jungle. On voyait de toutes parts le fourmillement des bêtes. Les eaux nourrissaient une population intarissable de silures, de tortues, de crocodiles, d'hippopotames, de pythons, de hérons pourpres, de grues à tête jaune, de cigognes noires, d'ibis, de cormorans, de sarsidiornis. La savane, la jungle et la sylve étaient surpeuplées de rucervus, d'axis, de saïgas, de daims, d'émiones, de chevaux, d'onagres, de gaures, de buffles et de gagres. Les psittacides, les colombes, les passereaux, les faisans emplissaient les ramures. Les végétaux sans nombre offraient leurs racines, leurs tiges et leurs fruits. Aoun se sentit plus puissant que les plus grands fauves et riche de la sève d'une race conquérante. Autour de lui, Djéa, Ouchre et les autres palpitaient comme des prolongements de sa personne. Le roi descendait lentement vers la caverne profonde. Il vint à la fissure et, avançant la face, il regarda. Le repère était vide. Zour, frissonnant, rampa par l'ouverture et se mit à explorer les pénombres. Des ossements frais encore se mêlaient aux os secs. L'odeur du félin géant persistait dans la pénombre. Le fils de la terre sortit de la caverne et il erra longtemps dans une grande inquiétude sans songer aux fauves qui pouvaient se cacher parmi les broussailles. Mais il était à peine entré dans la jungle que sa face s'éclaira. Le lion des rocs. Là-bas, parmi les bambous, la forme colossale était accroupie sur la carcasse d'un barasang. À la voix de l'homme, le félin releva sa tête monstrueuse, puis avec un feulement, il prit sa course. La joie de Zour fut complète. Quand la bête fut proche, il lui passa ses deux mains dans la crinière et un orgueil égal à celui d'Aoun enfla sa faible poitrine.